Nous avons le plaisir de vous présenter ce message qui vous bénira certainement. Écoutez et téléchargez notre message sur notre site www.jemkaku.org. Que Dieu vous bénisse.
D'Ésaïe chapitre 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quand on parle d'onction, la base, c'est l'esprit. Dès que tu parles d'onction, le commencement, c'est l'esprit. En réalité, Dieu ne commence pas à agir ou à faire quoi que ce soit tant que l'esprit n'est pas là. La Bible dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ensuite, la Bible nous fait une constatation. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme. Et ensuite, la Bible nous dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est que lorsque l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux, que Dieu dit maintenant, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu ne fait rien sans son Esprit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quand l'onction vient pour pouvoir apporter un changement dans la vie de tous ceux qui sont malheureux. Quand l'onction vient, elle vient pour pouvoir renverser des situations. Elle vient pour pouvoir transformer des situations. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas descendre quelque part ou descendre dans la vie de quelqu'un sans transformer la vie de cette personne. En réalité, lorsque vous naissez de nouveau, par abus, dans certaines églises, on vous dit, oui, la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas? Et on te dit de confesser ça. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, quelle chose ancienne est passée? Est-ce que ton loyer change? Est-ce que tes revenus changent? Est-ce que tes problèmes changent? Rien ne change dans ta vie. Tout est pareil. Même les péchés que tu faisais, c'est pas le jour où tu as donné ta vie au Seigneur que tu sors des péchés, hein. Ça continue. Mais en réalité, le jour où les choses anciennes passent et que tout devient nouveau, c'est lorsque tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Je vous prends un exemple bien simple. Prenez la vie de Pierre, l'apôtre. Pierre était un homme comme nous. Pierre avait ses forces, il avait ses faiblesses. Il était quelqu'un qui avait un trait de caractère assez bouillant. Il était fougueux, il était impulsif. Mais vous savez que les gens qui sont impulsifs ont tendance à poser des actes avant de réfléchir. Et Pierre était ce type de personne. Et Jésus a dit à Pierre, écoute Pierre, malgré le fait que tu aies marché 3 ans et demi avec moi, malgré le fait que tu aies chassé des démons et tout ça, malgré le fait que tu aies été utilisé par Dieu pour pouvoir donner une parole que j'ai qualifiée moi-même de parole exceptionnelle en disant que Pierre, vraiment, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, malgré tout ça, Pierre, Satan va te frapper, il va te corriger, Pierre. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi, pas pour ne pas que tu sois corrigé, Mais j'ai prié pour toi pour que, après que Satan t'ait corrigé, tu puisses te relever. Pierre dit, qui, moi? Moi, Satan va me corriger? Il dit, c'est faux. Après avoir appris tout ça, 3 ans et demi, au pied de Jésus, il y a des personnes qui n'ont... Moi-même, je ne suis pas Jésus. Amen. Il a fait 3 ans et demi au pied de Jésus. Tous les jours, c'est pas, il ne partait pas voir Jésus une fois par semaine. Il le voyait tous les jours. Il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. En fait, dans la même chambre que Jésus. Parce que maintenant, il faut faire attention. On peut tordre tes propos facilement. Il a tout fait avec toi pendant 3 ans et demi. Mais sa nature n'avait pas changé. Pierre n'avait pas changé. Le vrai Pierre était Pierre, là, il était encore là. Et lorsque les gens ont dit, mais ce n'est pas Pierre, c'est pas un compagnon de celui qu'on vient de crucifier, là, il dit, qui, moi? Non, vous m'avez pas bien regardé. Pierre était resté le même. La Bible dit qu'il a fui, il allait errer aussi parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose de mauvais. Et il était triste de voir qu'en réalité, après tout ce temps passé au pied de la parole, parce que Jésus est la parole de Dieu, après tout ce temps passé au pied de la parole, il n'avait pas changé. Il a commencé maintenant à se rappeler de ce que le Seigneur leur avait dit. Et le Seigneur leur avait dit, écoutez, quand je vais partir, avant que vous ne sortiez pour aller faire quoi que ce soit, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, restez là, attendez d'abord de recevoir ce que mon Père a promis. Vous recevrez une puissance et alors vous serez mes témoins. Et donc quand ils sont rentrés dans la chambre haute, c'était une bande de personnes qui avaient peur, de gens qui étaient traqués, de gens dont on avait... tuer le chef et qu'on poursuivait pour pouvoir les tuer. Ils sont pas rentrés pour dire on va aller être plus puissant, on va aller chercher. Non, ils sont rentrés parce que c'était le seul endroit où ils sont allés se cacher là-bas pour prier pour que vraiment quelque chose puisse se passer. Ils se sont fermés, ils ont commencé à prier. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit dans le ciel. La terre sur laquelle ils étaient se mit à trembler. Et des flammes, des langues semblables à des flammes de feu commençaient à descendre sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler en diverses langues. Et les langues qu'ils parlaient étaient des langues qui étaient intelligibles. Certains les entendaient en français. D'autres les entendaient en wobé. Vous ne savez pas c'est quoi le wobé, c'est une langue de chez nous. D'autres les entendaient en créole. D'autres les entendaient en russe. Ils disaient, mais comment ça se fait que j'entends des gens qui parlent? Ils sont en train de glorifier Dieu dans ma langue. Et les gens sont venus s'attrouper. Pierre, qui avait fui devant des petites... filles et des femmes qui disaient, n'est-ce pas lui l'ami de... Ils sont sortis de la pièce. Et Pierre, d'un coup, qui a fui devant 4-5 personnes, se voit en face de plus de 5000 personnes. Mais il y a une différence entre Pierre avant l'onction. Tu vois, c'est là maintenant que tu peux dire les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le même Pierre s'arrête devant ces 5000 personnes-là et dit qu'il y a eu un homme qui est venu. Il s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il détruisait toutes les œuvres du diable. Et vous l'avez pris, vous l'avez crucifié. Vous avez fait de lui un objet de moquerie. Mais celui que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Messie. Oh my God! Hallelujah! Et il a dit, aujourd'hui, il a donné un discours devant ces 5000 personnes. Quand il a fini, il a dit, aujourd'hui, vous pouvez lui donner votre vie. La Bible dit, 3000 personnes ont accepté Jésus comme Seigneur, leur Seigneur et Sauveur ce jour-là. Et c'est là que l'Église est née.
L'Église est née sous l'impulsion du Saint-Esprit. Si l'onction n'était pas descendue sur ces gens qui étaient dans la chambre haute, on n'aurait pas eu d'église aujourd'hui. Donc moi, je me pose des questions de savoir. Quels sont ces gens-là qui parlent de faire l'œuvre de Dieu sans puissance? Parce que la Bible nous dit que l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Alléluia. Et que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Jusqu'à présent, quelqu'un n'a pas encore été sérieux en ce qui concerne l'onction. Tu penses que c'est quelque chose qui est accordé au pasteur. Tu penses que c'est un luxe. Tu penses que c'est quelque chose vraiment qui n'est pas trop important, c'est pas nécessaire. Je te dis, mon frère, si tu veux aller quelque part, il te faut l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Jésus lui-même, il n'a fait aucun miracle. Il n'a rien fait. Jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur lui. Alléluia. Dieu lui-même, il n'a rien fait sur la terre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la terre soit informe et vide? La Bible ne nous donne pas de détails. La Bible ne nous donne pas d'explication concernant la raison pour laquelle la terre était informe et vide. Mais nous savons une chose, c'est que lorsque Dieu crée quelque chose, il ne crée pas quelque chose d'informe et vide. Il crée quelque chose qui a de la substance, il crée quelque chose qui a un but, il crée quelque chose qui a un objectif. Mais entre le moment où Dieu a créé cette chose-là et le moment où la Bible nous parle, il y a eu des événements qui sont passés, qui ont transformé le but originel de la création de Dieu. Elle est devenue informe et vide. Elle n'avait plus de sens. Moi, je ne sais pas. Quand vous voyez quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui se sent faible, vous voyez une créature de Dieu qui est informe et vide. Vous voyez quelqu'un qui ne sait pas où elle va ou qui ne sait pas où aller. Vous voyez quelqu'un qui se demande encore quel rôle est-ce qu'elle joue sur cette terre des hommes. Vous voyez une vie. Dieu ne nous a pas créés pour douter. Dieu ne nous a pas créés pour avoir peur. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dépressif jusqu'à la fin de nos jours. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit faible. Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Vous croyez que Dieu déprime? Vous croyez que Dieu a peur? Dieu nous a créés à son image. Mais entre le moment où Dieu nous a créés et le moment où on doit recevoir ce qui va rétablir les choses, il y a des choses qui sont passées. Certains ont été abusés, d'autres ont été battus, d'autres ont été frappés par la vie, d'autres ont été maudits, d'autres ont été déchirés de leur famille, certains ont grandi dans la pauvreté, d'autres ont connu toutes sortes de choses, mais quelle que soit la raison, le résultat, il est le même, informe et vide. Comme la terre. La terre était informe et vide. Mais quelque chose a commencé à se passer. Quand Dieu veut commencer à agir, le Saint-Esprit commence à faire le travail. Toi-même, tu sens. C'est-à-dire qu'avant même que la parole ne soit donnée, oh my God. Avant même que la parole ne soit donnée, tu sens que quelque chose est en train de se passer. C'est le mouvement du Saint-Esprit. L'Esprit a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. L'Esprit bouge. Même la terre même dit, il y a quelque chose. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. L'Esprit est là. L'Esprit commence à bouger. Tu sens dans ta vie qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Qu'il y a une présence que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Que cette présence-là est là. Et elle commence à te donner de l'assurance. Et elle commence à te dire, prépare-toi, parce que les choses vont changer. Elle commence à te dire, tu vas entrer dans une autre dimension. Elle commence à te dire, écoute, les choses anciennes maintenant, c'est là que tu commences à entendre, les choses anciennes sont passées. Alléluia, toutes choses deviennent nouvelles. L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur la terre. Et la Bible dit maintenant que Dieu, maintenant qu'il voit déjà que l'Esprit a commencé à agir, commence à déclarer que la lumière soit. Et la lumière fut. Tout d'un coup, quelqu'un qui était dans les ténèbres, la lumière s'allume. Dit que la lumière soit. Qu'est-ce que l'onction fait? La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, l'onction fait quoi? Elle libère le captif. Alléluia. Et elle délivre le prisonnier. Elle publie une année de grâce de l'Éternel. Une année de grâce, ça veut dire que tout est réussi. Les choses commencent à devenir simples, à devenir faciles. L'onction facilite les choses. L'onction rend les choses plus faciles. Quand des choses qui étaient dures avant à faire, quand tu reçois l'onction par rapport à cette chose-là, ça devient facile. Amen. Ensuite, il dit au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Regarde la puissance de l'onction. Le frère, il est dans la cendre. Et au lieu de la cendre, il reçoit quoi? Un diadème. Un diadème, c'est quoi? Une couronne. Alléluia. La cendre de quelqu'un va être transformée en couronne. La cendre de quelqu'un va être transformée en couronne. Quelqu'un va sortir de la cendre et tu penses que, entre le moment, tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. C'est les deux extrêmes. Tu te dis non, quand on sort de la cendre, on doit d'abord enlever la cendre, après se laver, après se changer, après maintenant, on va évoluer, ça va prendre quelques années, et puis ensuite, on va recevoir la couronne. Mon frère, Pierre, qui n'avait jamais gagné même deux âmes pour le royaume de Dieu, deux âmes, il n'a pas gagné. Du jour au lendemain, quand il a reçu l'onction, il a gagné 3000. Oh my God, il a gagné 3000. Il a gagné 3000. Prépare-toi à rencontrer la puissance de ton Dieu. Si tu n'es pas capable de croire que c'est pour toi ce soir, c'est que tu es blasé. Il y a des chrétiens maintenant qui sont blasés. Quel que soit ce qu'on dit, ils sont là. Il se dit non, c'est pas possible. Il a du mal à s'imaginer dedans. Le problème, c'est que tu ne peux recevoir que ce que tu vois. Si tu n'es pas capable de voir le diadème sur ta tête à la place de la cendre, il dit, il vient pour t'enlever de la cendre. Et à la place de la cendre, il te met le diadème. Dans ce temps-là, les gens, quand ils étaient en deuil, ils allaient mettre de la cendre sur leur corps. Quelqu'un qui avait de la cendre sur lui, c'est quelqu'un qui était dans la tristesse. Quelqu'un qui était dans la douleur. Quelqu'un dont on avait déchiré le cœur. Et on dit, il prend la cendre. Ou bien il prenait aussi le sac. Quand il prenait le sac, il déchirait ses vêtements. Et puis il portait les sacs, les anciens sacs de riz là. Maintenant, on ne voit plus trop ça. Il y avait des sacs de riz. Quand il s'habille avec ça et puis il nage dans la cendre comme ça, tu vois quelqu'un qui souffre. Mais tu t'imagines, ça c'est la personne de manière initiale. Et maintenant, cette personne-là, on dépose sur sa tête une couronne, un diadème. L'onction va transposer ta vie. L'onction va faire des miracles dans ta vie qu'on qualifie d'extraordinaire. Même dans le monde, les gens ont leur truc qu'on appelle le loto. Ou Euro Million. Il y a des gens qui croient plus à Euro Million qu'à l'onction. Mais l'onction va changer ta vie. Les gens qui gagnent Euro Million, du jour au lendemain, peut-être même qu'il avait des crédits, les gens étaient sur lui, la banque le poursuivait, tout ça. Du jour au lendemain, il est millionnaire en euros. Pour que justement même puisse supporter, il paraît que dès que tu gagnes, dès que tu te signales, on t'envoie des psychologues. Et on ne te laisse pas dormir chez toi. On envoie des gens pour venir te chercher, pour pouvoir te faire dormir à l'hôtel. On te met à l'hôtel en même temps. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent te cambrioler, te tuer, ou bien que tu aies des idées bizarres et tout ça. On te met en cellule pour pouvoir... C'est que... Oh my God, la transition est tellement rapide qu'il faut te préparer psychologiquement. quand l'onction, oh my God, quand l'onction de Dieu descend dans ta vie, ça te transpose. De quelqu'un qui était dans la cendre, tu deviens quelqu'un qui est dans la, qui a une couronne sur sa tête. Donc quand tu as la couronne, arrête de te comporter comme quelqu'un qui a la cendre. Il y a des gens qui ont tellement été habitués à être dans la cendre que malgré le fait qu'on dépose la couronne sur leur tête, ils continuent quand même de se comporter comme des gens qui sont dans la cendre. Il dit, pour te donner quoi? Une huile de joie au lieu du deuil. C'est-à-dire que le deuil là se transforme maintenant en huile de joie. Et tellement dans la joie. Quand l'onction descend dans ta vie, tu ne peux plus te fâcher, tu ne peux t'es plus énervé contre le monde, contre la vie. Il y a des gens qui sont fâchés contre tout le monde, même contre Dieu. Parce que leur vie est triste. Leur vie est une tragédie. Leur vie est informe et vide. Mais si ta vie est informe et vide, ce n'est pas Dieu qui l'a rendue informe et vide. C'est les accidents de la vie, les désobéissances, les décisions que tu as prises, les mauvaises personnes que tu as écoutées, les mauvaises choses que tu as faites. C'est ça qui a emmené ta vie à être informe et vide. C'est pas Dieu. Par contre, Dieu a la solution. Il est la solution. Il est celui qui est capable de pouvoir transformer ton deuil en huile de joie. Alléluia. Dis huile de joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il y a des personnes qui ont l'esprit abattu, sont dans la dépression. Elles n'ont plus la force de croire. Elles n'ont plus la force de voir devant. Elles n'ont plus la capacité de se projeter dans l'avenir. Pierre avait du mal à se projeter dans l'avenir. Il a fui lorsqu'on lui a dit, mais il était avec Jésus. Il allait se cacher. Mais quand il était là-bas, est-ce qu'il pouvait penser encore même à son avenir? Il dit, quand je vais sortir d'ici, je vais faire quoi? J'avais un bateau de pêche. Je pêchais des poissons. J'ai rencontré le monsieur là. Il m'a dit, suis-moi. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Voilà, maintenant je suis traqué comme une bête sauvage. Les gens me poursuivent. Je suis devenu maintenant un fugitif. Où sont les hommes là que je dois pêcher? Vous imaginez la détresse de Pierre? Toi, tu penses que tu connais la détresse, mais tu essaies d'imaginer un peu la détresse de Pierre? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux plus retourner pêcher mes poissons. Je vais aller où? Il y a des problèmes dont tu ne peux te sortir toi-même. Lorsqu'il n'y a pas de solution à tes yeux, il y a une solution qui existe. Et cette solution-là, c'est l'Éternel des armées. Il a dit, on va prier aujourd'hui. On va chercher la face de Dieu. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, à prier, à prier, et que le Saint-Esprit est descendu sur la vie de Pierre, celui qui était autrefois un fugitif s'est transformé en un super, supra-évangéliste capable d'amener 3000 personnes en une seule journée dans la maison du Seigneur. Il est devenu un des leaders de l'Église. Et l'onction a allé grandissant dans sa vie, a fait de lui un leader incontesté à Jérusalem, à Rome, dans toute la région dans laquelle il était. Et la Bible dit que des gens venaient par milliers pour pouvoir assister aux réunions de Pierre. Et Pierre enseignait, et Pierre parlait de la part de Dieu. Et Pierre était monté à une dimension telle que lorsqu'il marchait, son ombre même guérissait les mal. Oh my God! Toi tu te dis aujourd'hui, je suis dans le deuil, mon esprit est abattu, oh je souffre, je vois, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est parce qu'il te manque une clé. Il te manque la clé. Il te manque la seule clé qui est capable de te connecter avec ce que Dieu veut faire de toi. Et cette clé-là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Arrête de dire l'onction c'est pour les pasteurs. L'onction, c'est pour tous les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est les pasteurs seulement que l'esprit a battu? Hein? C'est les pasteurs seulement qui ont les vêtements de deuil? C'est les pasteurs seulement qui ont la cendre? Vous savez pourquoi? Il dit, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Une fois, j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi tu nous appelles plantation? Moi, je voyais l'aspect plantation. Je dis, bon, dans une plantation, on sème et puis on récolte. C'est vrai. Dans une plantation, il y a toujours à manger. En tout cas, il y a quelque chose. Quand il y a une plantation, il y a toujours à manger. C'est aussi vrai. Mais me dit, l'autre aspect, pourquoi est-ce qu'on nous appelle plantation de l'Éternel? Vous savez, quand quelqu'un a une plantation, une belle plantation, quand vous venez lui rendre visite, il vous fait quoi? Il vous montre sa plantation. Alléluia. Et il tire une certaine fierté à t'emmener dans sa plantation et dire, voilà, tu vois, aussi loin que tes yeux peuvent voir, jusqu'au bout là-bas, et jusque là-bas, tout ça là, c'est ma plantation. Alléluia. Ici, j'ai planté ci. Et puis là, il y a ceci. Et je suis une plantation de l'Éternel. Alléluia. Tu es une plantation de l'Éternel. C'est-à-dire, et une plantation, quand tu as une plantation, tu en prends soin. Les gens qui ont une plantation, c'est comme s'ils sont piqués par un virus. Ils ne peuvent pas faire 3 jours, 4 jours. Sans aller dans leur plantation. Ça veut dire que chaque jour, Dieu vient s'enquérir sur mon état. Et quand tu vois qu'il y a une mauvaise plante ou une mauvaise herbe qui est en train de pousser là, tu vas l'arracher. Et quand tu vois qu'il y a un arbre qui est en train de germer, tu vas t'en occuper, tu vas l'entourer. Et quand tu vas voir qu'il y a quelque chose, tu vas aller l'arroser. Dieu prend soin de nous quotidiennement. Et il veut tirer de la fierté de notre vie, de telle sorte qu'en nous voyant, les gens puissent dire, vraiment ce Dieu-là, il est puissant. Il a relevé l'indigent du fumier, il a transformé la cendre en diadème, il a recouvert d'une huile de joie au lieu du deuil, des vêtements de louange. Ça, c'est le travail de l'Éternel. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu pour la réalisation de choses surnaturelles. Alléluia. C'est quand Dieu, quand l'Esprit de Dieu agit à travers quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose de surnaturel. Tant que la chose qu'on doit faire est à la portée des hommes, on n'a pas besoin d'onction. Quand ça dépasse la capacité d'un homme, physique, avec son intelligence et sa force, l'onction est nécessaire. Alléluia. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action à travers un homme qui produit des résultats extraordinaires. Amen. Parce que vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, il y a 2 choses principales que Dieu fait. Il fait une œuvre en vous et il fait une œuvre à travers vous. Amen. Il fait une œuvre en vous, il veut vous purifier, il veut vous sanctifier, il veut que vous sortiez du péché, il veut enlever l'orgueil dans votre cœur, il veut enlever l'impatience, il veut enlever, c'est le travail qu'il fait en vous. Et il fait un travail à travers vous, il parle à travers vous, il guérit à travers vous, il enseigne à travers vous, il touche à travers vous, il bénit à travers vous. Amen. Donc il y a des personnes qui sont déséquilibrées. Dieu fait plus de choses à travers eux qu'il n'en fait en eux. Et il y a des gens qui disent que l'œuvre à travers nous n'est pas nécessaire, mais c'est l'œuvre qui est en nous qui est importante. Il faut équilibrer les deux. Il faut permettre à Dieu de faire son œuvre en nous pour que nous soyons sauvés. Pour ne pas dire comme Paul, il dit mais que après avoir prêché l'évangile, si moi-même je ne suis pas sauvé, à quoi ça me sert? Vous comprenez? Donc vous pouvez aider des gens à être sauvés sans vous-même être sauvés. Donc l'œuvre de Dieu doit se faire en vous et l'œuvre doit se faire à travers vous. Maintenant, vous avez des gens aussi en qui Dieu fait une œuvre extraordinaire, mais qui ne permettent pas à Dieu de faire des œuvres à travers eux. Et ça, ce sont les gens qui rejettent l'onction. Parce que au moment où tu vas vouloir que Dieu agisse avec toi, la première des choses qu'il va vouloir que tu reçoives, c'est l'Esprit. Et il va vouloir te oindre. Parce que si tu n'as pas oint, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. C'est l'onction qui fait que l'Esprit vient dans une certaine manière, dans une certaine dimension. Regarde Saül ou Saul, et regarde Saül plutôt, et regarde David. La Bible dit que quand Samuel a versé l'huile, donc l'onction sur David, l'Esprit de Dieu le saisit et la vie de David ne fut plus la même. Vous vous rappelez? Il y a eu quoi d'abord? Est-ce que l'Esprit est venu d'abord? L'onction est venue d'abord. L'Esprit est venu ensuite. Et la transformation s'est opérée. David pouvait dire, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. L'onction, c'est l'outil que Dieu utilise pour qu'un homme réalise des exploits. Quand quelqu'un doit réaliser des exploits, il veut que quelqu'un réalise des exploits, il lui donne l'onction. Ne pensez pas que Dieu est derrière toutes les personnes qui réalisent des exploits. Pendant qu'on est ici, il y a plein d'œuvres qui se font. Mais Dieu, lorsqu'il veut que quelqu'un réalise des exploits, par exemple Samson, il a voulu que Samson réalise des exploits, il lui a donné l'onction. Il a voulu que Gédéon réalise des exploits, il lui a donné l'onction. Il a voulu que Paul réalise des exploits, il lui a donné l'onction. Tu peux continuer. Hein? Il a voulu que à chaque fois qu'il veut que quelqu'un réalise des exploits, il a dit d'ailleurs, avant ces temps que nous vivions, en Israël, lorsque tu devais faire quelque chose, que ce soit être prêtre, être sacrificateur plutôt, pas prêtre mais sacrificateur, ou bien roi, ou bien prophète, avant même que tu ne fasses quoi que ce soit, tu devais recevoir quoi? L'onction. Même quand tu veux ouvrir ton restaurant, il faut demander l'onction à Dieu. Parce qu'il y a restaurant et restaurant. Il y a restaurant sans onction et puis il y a restaurant avec onction. C'est-à-dire que quand tu as le restaurant avec l'onction, dès que tu ouvres la porte, le restaurant est rempli en même temps. Les gens font la queue. On dit, mais l'onction est formidable. L'onction attire les gens. Quand les disciples étaient en train de prier que l'onction est descendue, ils n'ont pas fait une affiche publicitaire, ils ne sont pas là à la télé. Mais quand ils sont sortis, il y avait une foule devant eux. Qu'est-ce qui avait attiré cette foule-là? Alléluia. Je dis, quand tu as l'onction pour quelque chose, même si c'est pour, je ne sais pas moi, pour faire du yaourt. Mais c'est incroyable de voir comment maintenant les gens du monde fonctionnent plus dans certains principes que nous. La dernière fois, je regardais un reportage, on parlait d'un Français qui vend des hamburgers dans le monde, mais pas n'importe quel. Il a des hamburgers à 5 000 euros. Si Dieu te dit, va faire un hamburger, et puis tu vends ça à 2 000 euros, tu vas dire, rien de moi, Satan. Mais lui, il vend ses hamburgers. Il y a un hamburger de 5 000 euros, il y a un hamburger de 2 000 euros, il y a un hamburger de 1 500 euros, et les gens font la queue pour manger ces hamburgers. Il y a des gens qui prennent leur billet d'avion. Alléluia. Ça veut dire que quand l'onction vient sur toi par rapport à une chose que tu sais faire. Genre même tu sais même ne serait-ce que, je sais pas moi, tricoter quelque chose. Mais l'onction va descendre sur toi, tu vois, tricoter un truc. Les gens vont dire, c'est combien? Même si j'ai 10 000 euros, ils vont dire, j'achète. C'est dans ça que les gens du monde fonctionnent actuellement. La dernière fois, ils ont montré un monsieur qui a fait une statue, je crois c'est une statue de chien. Il allait louer Versailles, le château de Versailles, pour faire son exposition. Quand tu regardes les choses qu'il fait, tu te demandes même, qu'est-ce que c'est? Un chien. Il a vendu ça à 35 millions d'euros. Un chien. Toi, tu vas travailler toute ta vie. Même le dixième. Ça dit qu'arrivé à un certain moment, il faut comprendre que il y a une clé qui ouvre une porte. La porte de l'excellence. La porte de l'extraordinaire. La porte du surnaturel. La porte des choses qui ne se font pas vraiment de manière humaine. Ça dépasse l'entendement des gens. C'est-à-dire que Dieu lui-même te sort. Toi, tu te dis, oh, si je peux sortir de la cendre, seulement c'est bon. Mais Dieu, il ne veut pas seulement te sortir de la cendre. Le problème, c'est que toi et lui, vous n'êtes pas encore d'accord sur ce que Dieu doit faire dans ta vie. Alléluia. Toi, tu dis, Seigneur, sors-moi de la cendre. Dieu dit, je vais te mettre un diadème sur la tête. Tu dis, non, Seigneur, diadème, là, c'est trop. Mon esprit ne peut pas arriver là-bas. Moi, je veux sortir seulement de la cendre. Mais Dieu dit, mais moi, je veux mettre un diadème sur ta tête. Et puis, ça fait 10 ans que vous êtes en train de causer. Sors-moi de la cendre. Donne ta tête, je vais mettre diadème. Seigneur, pitié, tu ne veux pas comment je souffre. Ça fait 8 ans maintenant. Sors-moi de la cendre. Prends le diadème. Mais comme tu as souvent entendu, souvent on t'a rabâché, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu dis, l'aura là, c'est trop loin. Diadème là, je ne peux pas croire en ça, Seigneur. Ma vie n'est faite que de souffrance. À chaque fois que j'ai voulu saisir quelque chose, la chose m'a échappé. Les gens m'ont fait du mal. On m'a dit que je ne valais rien, que je ne pouvais rien faire, que j'étais rien, que je n'allais rien faire. Vraiment, même quand je veux même, je sais que le diadème là n'est pas pour moi. Mais Dieu dit, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a qu'une seule possibilité. Tu veux sortir de la cendre. En fait, le problème de Dieu, ce n'est pas de te sortir de la cendre. Quand tu regardes là, il ne te sort pas. Au lieu de la cendre, il met le diadème. C'est-à-dire qu'il veut te transformer. Il veut te transposer. Mais le problème, c'est que toi-même, ton esprit a du mal à accepter ça. C'est pour ça que Dieu a mis la parole. C'est pour ça que Dieu a mis l'enseignement de la parole. Parce que c'est la parole qui va venir façonner ton entendement, façonner ton intelligence, et puis t'amener petit à petit à croire. Mais en réalité, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui mettent 10 ans avant de croire. Il y a des gens qui mettent 20 ans avant de croire. Il y a des gens qui mettent 2 mois avant de croire. Celui qui croit en 2 mois, ou bien même le mois même, il croit. La transformation s'opère dans sa vie. Dieu veut te transformer. Et ce n'est pas l'onction qui va te transformer. Alléluia. Jésus, il a fait 30 ans sans exploit sur la terre. Il reçoit l'Esprit. Il reçoit la puissance. Et il commence maintenant en 3 ans et demi. Alors qu'il a passé déjà 30 ans sur la terre, il fait en 3 ans et demi ce qu'il n'a pas fait en 30 ans. Quand tu vas recevoir l'onction, tu vas faire en 1 an ce que tu n'as pas fait dans toute ta vie. Prépare-toi à recevoir l'onction. Il y a des gens qui disent, hey, vraiment, j'ai tellement de rêves, j'ai tellement de projets. Depuis, ça fait des années, je n'ai même pas vu le début même du commencement du projet. Mais Dieu a une manière différente pour nous, de travailler. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Point de suspension. On ne te dit pas combien de temps la terre était informe et vide. Peut-être que ça a duré des milliers d'années. Quand les gens disent, oui, les chrétiens disent que la terre a 6000 ans. Je dis, mais où vous avez vu ça? Ce n'est pas écrit dans la Bible que la terre a 6000 ans. On dit, Dieu créa les cieux et la terre. Point de suspension. La Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, il y a un temps qui s'est écoulé, mais ce temps-là, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Ça peut être des milliers d'années. Pendant ce temps-là, la terre était informe et vide. Mais un jour, l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir au-dessus de la terre. au-dessus de la terre. Il a commencé maintenant à revisiter la terre. Cette terre-là même qui avait été créée à l'origine par Dieu, parfaite. Dieu ne crée rien d'informé vide. Quand Dieu t'a créé, quand tu es sorti de son esprit, tu n'es pas sorti bancal. Tu n'es pas sorti aveugle. Tu n'es pas sorti faible. Tu n'es pas sorti peureux. Tu n'es pas sorti dépressif. Tu n'es pas sorti faible. Non, tu es sorti de la manière dont il voulait que tu sois. Et quand tu es né, là, le monde, la vie a commencé à te gifler.
Je vous ai déjà fait cet exemple-là. Donnez-moi un billet de 10 euros, là. Ou de 5 euros, ou de 50, un billet quelconque. Le plus rapide à donner le billet. Dans son esprit, il t'a donné une valeur. Je te crée. Je vais créer. Tu sais, quand Dieu crée quelque chose, il ne va pas dire, je vais créer quelque chose, on va voir à quoi ça va ressembler. Non. Il dit, je vais créer une femme. Elle aura telle qualité. Elle sera une femme intelligente. Elle va faire des grandes choses. Elle va, à travers elle, je vais réaliser. Donc, il te donne une valeur. Comme ceux qui ont créé ce billet-là lui ont donné une valeur. Maintenant, la valeur qu'ils ont donnée à ce billet-là, c'est la valeur de 10 euros. Maintenant, les gens disent, mais ça, là même, c'est quel billet, ça? Un billet rouge, comme ça. Moi, je n'aime pas les billets rouges. Ils froissent. C'est vrai qu'on a froissé ta vie. Mais on n'a pas diminué la valeur. C'est toujours 10 euros. Et il dit, non! C'est quel truc précis, on fait du papier comme ça. Et puis, mal dessus. Vilain billet. Sale billet. Tu es trop sale. Toi, tu ne vas jamais réussir. Tu vas jamais te marier, toi. Tu ne vas jamais avoir d'enfant. Tu n'as pas de valeur. Tu as beau crier à ce billet-là qui n'a pas de valeur, mon frère. Il vaut toujours la valeur initiale de son créateur. 10 euros. Quand tu vas aller acheter quelque chose qui coûte 10 euros, on ne va pas dire, mais c'est quel billet que tu me donnes là? Pourquoi est-ce qu'on l'a insulté? Le gars ne sait même pas qu'on l'a insulté. En réalité, les blessures que tu as reçues, les paroles qu'on t'a données, ça n'affecte pas ta capacité à agir. Ça affecte la perception que tu as de toi-même. C'est le biais qui va dire, cachez-moi, je suis sale. Vous voyez comment je suis froissé? Vous voyez comment je... Alors qu'il a toujours la même valeur. La même valeur. Ta valeur n'a pas changé. Sauf que il y a un qui est capable de venir redonner à cet aspect-là, à ce billet-là, l'aspect initial qu'il avait. La terre était informe et vide, mais avant il y avait la lumière. C'est pour ça que les gens qui connaissent la parole de Dieu, quand ils traduisent en anglais, c'est pas que la lumière soit. C'est let there be light. Ça dit, c'est pas que la lumière soit, mais c'est que la lumière revienne. C'était pas une œuvre de création, mais c'était une œuvre de restauration. Oh my God! Hallelujah! Parce que la chose était informe et vide. Quelque chose avait rendu la chose informe et vide. L'onction est venue maintenant pour redonner à cette chose informe et vide l'apparence qu'elle avait à l'origine. Let there be light. Laissez la lumière venir. Et la lumière. Oh my God. Alléluia. La terre avait toujours eu la lumière. Sauf que quelqu'un était venu bloquer, empêcher la lumière. Et Dieu dit, laissez la lumière venir. Quelqu'un a volé ta joie. Quelqu'un a volé ta paix. Quelqu'un a volé ta prospérité. Quelqu'un a volé tous ces dons, toutes ces grâces-là que Dieu a mis dans ta vie. À l'origine, quand il t'a créé, il a mis toutes ces bonnes choses. Et ça a été volé. On a transformé une vie qui était promise à vraiment à quelque chose d'extraordinaire. On l'a transformé en une vie informe et vide. Maintenant, Dieu dit, laissez sa joie revenir. Laissez sa paix l'envahir. Laissez sa grâce se manifester. Laissez sa prospérité rejaillir. Et c'est comme ça que
quand l'onction vient, la Bible dit l'onction brise le joug. Le joug, c'est quelque chose qu'on met de force sur toi. L'onction vient pour pouvoir te libérer. Quelqu'un qui n'est pas libéré ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas libéré ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. C'est l'onction du Saint-Esprit, donc, qui est à l'origine de l'Église. Et le Saint-Esprit est la source de l'onction. Alléluia. On va lire une histoire rapidement dans la parole de Dieu. Tu vas voir comment les choses arrivent pour ceux qui ont l'onction. Marc, chapitre 4, versets 3 à 5. Marc, chapitre 4, versets 3 à 5. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils étaient à un endroit où ils ont connu des miracles, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais le Seigneur leur a dit, passons à l'autre bord. Dis à ton voisin, passons à l'autre bord. Tu vois, passer à l'autre bord, c'est quand tu prends la décision de changer de situation. Pour toi, passer à l'autre bord, quand quelqu'un, par exemple, vit dans une situation difficile, par exemple de pauvreté, et il dit, à partir de maintenant, je veux entrer dans la prospérité, il décide de passer à l'autre bord. Quand une femme qui est restée pendant des années dans la solitude, et elle dit, je veux plus faire un jour de plus dans la solitude, elle décide de passer à l'autre bord. Quand un serviteur de Dieu a eu une communauté où il a entretenu une dizaine de fidèles pendant des années, et que maintenant, il dit non, moi je suis fatigué d'avoir une église de 10 membres, je veux passer maintenant à une église de 200 membres. Il décide de passer à l'autre bord. Donc passer à l'autre bord, c'est ça, c'est parce que quand tu es de l'autre bord, les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues. Pourquoi? Parce que tu es dessus l'autre bord. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose parce que le monde n'a pas encore été refait. À chaque fois que quelqu'un décide de passer de l'autre bord, va se lever ce qu'on appelle une tempête. C'est pas n'importe quelle tempête. Parce que Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Il avait un bateau de pêche. Pierre a déjà vu des tempêtes. Pierre a déjà navigué en plein milieu de la tempête. Mais quand cette tempête-là s'est levée, et qu'il a vu, c'est même pas une petite, il y avait un tourbillon, et qu'il a vu la tempête, il a vu que cette tempête-là, elle n'était pas naturelle. Il dit non, ça c'est une tempête spéciale. Cette tempête-là est venue pour me détruire. Le jour où tu dis, je veux sortir de la pauvreté, je veux rentrer dans la prospérité, my God, tu vas commencer à avoir des combats financiers. Le jour où tu dis, non, je vais sortir de cette situation, de cette maladie, la maladie va vouloir même t'emporter. La situation même de laquelle tu as décidé de sortir, que tu as décidé de surmonter, c'est cette situation-là, une tempête va se lever. Et c'est à ce moment-là que maintenant les disciples et les apôtres ont commencé à paniquer. Comment on va faire? On est foutus, on est déjà mort. Il y en a même qui disent, hey, j'ai même pas dit à ma femme. C'est là, tout, on passe tous reprendre la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Le plan de Dieu, ça veut dire qu'il y a un pattern, c'est comme ça, c'est le chemin. Tu veux aller de l'autre bord, tu dois affronter la tempête. Oh, les gens qui sont dans la tempête, c'est là qu'ils réagissent mal. Qui m'a dit même de passer de l'autre bord? Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où tu veux passer de l'autre bord, le diable te dit, mais toi, tu te vends pour qui? Tu veux quitter la cendre pour le diadème. Tu veux quitter le deuil pour l'huile de joie. Ça va pas, non? Ça, l'autre bord, là, c'est pas pour toi. Tu ne bouges pas, tu restes là. Tu vois le fleuve. C'est calme comme ça. Quand tu veux mettre ton pied, dès que tu mets ton orteil un peu dedans, ça commence. Ah! Tu dis, bon, vraiment. On dirait que l'autre bord, là, tu dis, bon. Hé, hey, mon frère, pardon, viens m'aider. Avec ton bateau, là. Faut m'aider, on va passer. Tu peux passer de l'autre bord. Il dit, ok, ma soeur, il n'y a pas de problème, monte. Il y a des gens. Certaines personnes ont voulu t'aider. Mais quand ils ont vu la tempête que ça a déclenché dans leur vie, au moment où ils ont décidé de te... Oh my God. C'est-à-dire qu'il y a des gens même... Oh, ils te disent, passe, passe, jeudi, je vais régler ton problème. Mais quand tu arrives jeudi, ils disent, non, non, ils ne veulent même pas te recevoir. Qui a déjà expérimenté ça? Tu montes dans la barque. Dès que tu montes dans la barque, quand il pague une fois, deux fois, il arrive... Le fleuve commence à se lever. Il dit, pardon, il faut descendre. Laisse, il faut descendre. Tu dis, non, mon frère, c'est pas là. Allons-y. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que le diable dit, l'autre bord, là, c'est pas pour toi. Pourtant, Dieu dit, passons de l'autre bord. Ça veut dire quoi? Je t'attends de l'autre côté. C'est pour ça que Jésus a donné, il a donné la parole. Il laisse se coucher. Il a dit, passons de l'autre bord. Lui, au moment où il t'a dit, passons de l'autre bord, il t'a donné déjà le mandat. Le problème, c'est que toi, tu as peur des manifestations. Mais lui, en ce qui nous concerne, lui, comme il est Dieu, et qu'il t'a dit, passons de l'autre bord, il a fait ça, il s'en va dormir. C'est à toi maintenant de passer. À chaque fois que tu vas changer de dimension, un pasteur, pour qu'il passe de 10 à 50, il doit affronter une tempête. De 50 à 100, tempête. De 100 à 200, tempête. De 100 à 500, tempête. 500 à 1000. Et à un moment, tu dis, moi, je suis fatigué des tempêtes. C'est que tu es fatigué d'évoluer. Tu montes dans la barque, ça commence encore. Mais Jésus est en train de dormir. Vous voyez, c'est ça, quand tu as la paix, quand tu as l'onction, même quand il y a la tempête, tu dors tranquille, tu dors tranquille, tu dors tranquille. Les gens sont là la nuit, ils transpirent. Mon frère, récupère, comme ça demain, au moins tu vas avoir la force pour lutter. La nuit, mais tu attends. Tout ça. C'est les problèmes de la vie là, que la personne prend pour aller dormir. Jésus, quand Jésus dormait, il n'a même pas senti mais attends, il dormait profondément. Vous imaginez, la barque bouge comme ça, ça bouge comme ça. Même Pierre, qui a un péché expérimenté, lui-même, il attrape le truc. Il a dit, non, il y a un problème ici. Mais Jésus, il dort. Dis la paix de Dieu. Envahis mon cœur. Au milieu de la tempête, je demeure dans la paix et dans la foi. Alléluia. Quand tu as l'onction, c'est comme ça. Même quand ça bouge à côté, toi, tu es tranquille. Maintenant, les gens viennent. Seigneur, tu ne vois pas qu'on périt. On est en train de mourir là. Hein? On est presque noyé. Jésus dit, oh, vous-même, vous exagérez toujours. Il dit, c'est quoi le problème? Tu vois pas comment les flots nous fatiguent, comment la mer. Il se lève. Il vient. Il regarde le vent. Tais-toi. Mais du calme. Et puis il retourne se coucher. Ah! Le les disciples disent, mais c'est quel ministère ça? C'est quel homme ça? Mais Jésus leur a fait un reproche. Jésus leur a fait le reproche. Il dit, mais vraiment, donc vous n'êtes pas de foi? Il dit, mais pourquoi vous êtes... En fait, il est en train de leur dire, mais pourquoi vous êtes venus me réveiller? N'importe qui entre vous avait la possibilité d'arrêter le vent et d'arrêter la tempête et d'apaiser la tempête. Mais vous avez été pris par votre panique et vous avez oublié que vous êtes une plantation de l'Éternel, que vous êtes des térébènes de la justice, que vous êtes des enfants de Dieu et que Dieu vous attend de l'autre bord. Il y a des gens qui disent, mais Dieu ne me parle plus. Moi, quand j'entends Dieu ne me parle plus, tout de suite, je sais ce c'est quoi le problème. C'est que Dieu t'a donné un rendez-vous. Et tu n'es pas allé au lieu du rendez-vous. Donc, si Dieu te dit, allons de l'autre bord, lui, il va t'attendre de l'autre bord. Toi, tu restes sur le bord. Tu dis, parle-moi, Seigneur. Mais lui, il va te parler comment? Il est sur l'autre bord. Il t'attend là-bas. Dieu ne nous parle jamais. C'est-à-dire, quand tu désobéis, il te donne une instruction et que tu ne suis pas l'instruction qu'il t'a donnée, c'est pas la peine de lui dire encore, parle-moi. Parce que lui, il est resté sur la dernière instruction qu'il t'a donnée. La seule manière pour toi de pouvoir entendre la prochaine instruction, c'est de faire la première qu'il t'a donnée. Et ça, on appelle allons de l'autre bord. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je crois que Dieu est en train de nous demander de passer à l'autre bord. Alléluia. Si tu as peur de la tempête, tu ne veux pas passer. Hein? Mais sinon, si vraiment tu veux que l'œuvre de Dieu se fasse dans ta vie, tu vas dire à ton voisin, allons de l'autre bord. L'onction va te faire aller de l'autre bord. L'onction va te faire aller de l'autre bord. Il y a quelqu'un dans cette salle-là, Dieu s'apprête déjà, il t'a déjà donné l'instruction, il te dit, c'est ton dernier jour sur ce bord-là, ma fille, prépare-toi parce qu'on va de l'autre bord. Alléluia. Quand tu es un diacre ou quelqu'un qui sert dans l'église et puis Dieu veut te faire entrer dans le ministère, il te dit, passons de l'autre bord. Au moment où tu dis, oui, je vais faire le ministère, une tempête s'abat sur toi. Tous ceux qui passent de l'autre bord sont des personnes qui ont affronté et vaincu la tempête. Alléluia, tu vas élever la voix ce soir. Tu vas parler à ton Dieu ce soir. Tu vas parler à ton Dieu ce soir. Basandari shendereso kiyase. Broto kanta yeke masasa. Breke senderia shokondoria makai. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Élève la voix ce soir. Parce que nous avons affaire ici ce soir à des personnes qui doivent changer de bord. Oh, qui doivent changer de bord. Ce programme-là, il est fait spécialement pour des gens qui veulent avancer. Nous-mêmes, nous devons passer de l'autre bord. On doit passer de l'autre bord. On doit passer de l'autre bord.